Bon matin à tous, les Voix de service magazine, c'est l'émission qui débute à l'instant. J'espère que vous allez bien. En studio, en tout cas, c'est la forme pour vous offrir une émission avec beaucoup de lectures de magazines ou de blogs. C'est la mission de celle-ci, naturellement, et on va aller retrouver tout de suite une de nos collaboratrices, qui est Franceline Nieuviard. Comment allez-vous ce matin?
Ça va bien, bonjour.
Passez un beau week-end?
Oui, absolument, oui.
Bon, excellent.
Alors, hors de Montréal, c'était agréable.
Oui, c'est vrai.
Bien, écoutez, le mois de mars, c'est d'abord le mois de la nutrition. Alors, en deuxième partie, j'aurai un petit article là-dessus. Et puis, en première partie, le mois de mars aussi, il y a la semaine de la déficience intellectuelle. Un article intéressant avec Annick Larose. Annick Larose est la présidente de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Et j'ai trouvé un article dans deux journaux. D'abord l'Itinéraire, qui pose quatre questions à Annick Larose. Et puis dans le journal du Bel Âge, des précisions sur cette semaine de la déficience intellectuelle.
D'accord, merci beaucoup. Et on retrouve Roger Roy.
Oui, bonjour, bonjour Claude.
Ça va bien?
Bonjour tout le monde.
Oui, bonjour.
La course aux étudiants étrangers, que ce soit les universités, évidemment, c'est très payant. On va voir, là. Il ne faudrait peut-être pas trop s'y fier, parce que si la source se tarit, à un moment donné, les universités peuvent avoir des problèmes.
Oui, tout à fait.
Bon, ça, c'est le premier sujet dont je vais vous parler. Mm-hmm. Et je vous parle aussi de quelqu'un qui a une vocation très particulière, c'est Claude Paradis, le prêtre des oubliés. Lui, c'est à Montréal, et les gens qui errent dans les rues et qui ont besoin d'aide, là, il est là pour eux.
Ah, dans la même veine que le
exactement. Le prêtre Pops. Oui, je ne sais pas si c'était il faisait son travail en même temps que lui, probablement que lui.
On aura sûrement la réponse un peu plus tard dans l'émission. Et de mon côté, je vous lis deux textes. Un que j'ai retrouvé sur le blog de la presse qui dit que la consommation des plats industriels augmente le risque de cancer. Et un autre article que j'ai trouvé dans le magazine Costco, la santé des yeux. L'examen de la vue, alors je vous en parle un petit peu plus tard. On va revenir tout de suite avec Franceline. Alors, Madame Franceline, comme premier sujet.
Bien. Donc, je vais parler de la déficience intellectuelle. Dans un premier temps, les quatre questions que l'Itinéraire, par la voix de Karine Bénézé, a posées à Annick Larose, qui, comme je vous disais, est directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, l'AQIS. Et donc, voilà. Si, dans les années 50, les enfants ayant une déficience intellectuelle étaient trop souvent institutionnalisés, Annick Larose précise qu'à cette même époque, des parents se sont battus pour donner à ces enfants une place en société. Une bataille que cette directrice, également mère d'une jeune fille de 22 ans ayant une déficience intellectuelle moyenne, effectivement elle a une trisomie, j'ai lu dans un autre article, une bataille que cette directrice ne considère pas comme gagnée en 2018. Alors, première question, depuis 56 ans que l'AQIS travaille à la défense des droits et des intérêts des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, quel bilan dressez-vous aujourd'hui ? Elle répond, la manière dont la société s'est occupée de la déficience intellectuelle est intimement liée aux avancées sociales du Québec. En 1951, des parents ont cherché à créer des écoles, des services diversifiés pour leurs enfants. Il faut savoir qu'à cette époque, on ne les éduquait pas du tout. Vers les années 70, des services créés par l'État ont vu le jour. Plus pour sauver de l'argent, car institutionnaliser les personnes coûtait extrêmement cher, que par grandeur d'âme, précise Annick Larose. Je sens qu'aujourd'hui s'exerce un retour du balancier. Le tissu social s'amincit, on prend de moins en moins soin des personnes vulnérables. Les centres de réadaptation se perdent dans une mer médicale. C'est ce qu'on constate des parents qui ne s'y retrouvent plus du tout. Deuxième question. Qu'en est-il de l'éducation spécialisée pour ces personnes ? Nous, les parents, croyons en nos enfants et en leur potentiel. Personnellement, j'en ai après l'école. Je dis souvent en boutade que ma fille a un doctorat en soupe et en muffins. Le milieu spécialisé considère que c'est ce qu'ils doivent apprendre. Par contre, lire et écrire n'est pas une obligation. Le temps et les croyances sont injectés dans le développement de l'autonomie fonctionnelle. Faire de la soupe, des muffins, son lit, mais seulement savoir lire et écrire de ce point de vue est aussi essentiel. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui terminent leur parcours spécialisé sans savoir même repérer le nom d'une rue. Il y en a à la tonne. J'ai travaillé fort pour que ma fille apprenne ses bases. Elle ne lira pas du Voltaire, mais elle a une compréhension de textes simples. Et ses éducateurs s'étonnent de ses capacités de lecture, même simplement fonctionnelles. Troisième question. Quelles sont les barrières institutionnelles qui empêchent le développement d'un système éducatif adapté tout en répondant aux besoins d'intégration et d'autonomie de ces personnes ? Une professeure de l'UQAM travaille à développer la lecture en déficience intellectuelle. On s'aperçoit aujourd'hui des nombreux bienfaits de cet apprentissage sur l'estime de soi, l'intégration, le sentiment d'appartenance. C'est une révélation. Par contre, il faut y croire. Actuellement, les écoles spécialisées ne savent pas quoi enseigner à ces jeunes. Il y a aussi une sorte de paresse. On se dit qu'apprendre l'alphabet à travers des recettes de cuisine correspond à ce qu'ils sont capables de faire. Et il y a une très grande déception des parents de ce côté-là. Je comprends que ma fille n'ira pas à l'université, j'en ai fait le deuil, mais je considère qu'elle a des capacités d'apprentissage, tout comme tout autre enfant. Quand je me suis aperçue qu'elle allait savoir lire, une porte s'est ouverte sous une prairie verdoyante. Aujourd'hui, elle tient son agenda, elle me texte. Je voudrais qu'on monte la barre. Dans le milieu, j'ai réussi par bribes à forcer le développement de la lecture. Mais autour de la table, je passe encore pour une martienne. Quatrième question. Quels sont les préjugés les plus tenaces concernant l'éducation des personnes présentant une déficience intellectuelle ? L'un des plus forts préjugés est de penser que ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Cette pensée se matérialise par la question de l'âge mental. Et moi, quel est mon âge mental ? Si je me dis que ma fille a 5 ans d'âge mental, je vais la traiter comme telle. À cet âge, on n'a pas de vie sexuelle, de copains, d'aspiration d'adulte. Alors que c'est une question de posture, tout en étant consciente qu'elle n'a pas la même vie qu'une jeune fille classique du même âge. Un second préjugé est de croire qu'ils sont incapables d'apprendre. Mais on apprend tout au long de notre vie. On sous-estime leur volonté et leurs besoins d'apprentissage qui doivent être stimulés. Il y a des dangers à ne pas être éduqué. Par exemple, pour tout ce qui concerne la sphère sexuelle et relationnelle. C'est un thème intouchable même pour certains parents. Seulement, comme nous, ces adultes ont des pulsions et le besoin d'être aimés. Il est primordial d'éduquer la sexualité lorsqu'on regarde la proportion d'hommes et de femmes abusés et violentés. C'est un vrai fléau. Donc voilà, c'était les réponses de Dani Croze aux questions de Karine Bézéné dans le journal L'Itinéraire. Et je voudrais juste un petit peu compléter l'article. En vous parlant de cette semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroulera du 11 au 17 mars, c'est Vincent Guillaume Otis qui joue dans District 31 et dont le frère a une déficience intellectuelle qui inaugurera cette semaine de sensibilisation au cours d'un vernissage de l'exposition d'un œil différent le 7 mars à 17h à l'Écomusée du Fiers-Mondes à Montréal. Donc voilà, ce sera la 30e édition de la Semaine québécoise et le thème, c'est « Apprendre à se connaître ». Et donc les objectifs de cette semaine, c'est donc par le biais d'activités prévues dans l'ensemble du Québec, l'association donc AQIS souhaite créer des liens entre vous, moi et toute personne ayant une déficience intellectuelle. On veut encourager chacun d'entre nous à se dire « elle a un prénom ». Elle a des goûts, elle ressent le besoin de s'accomplir, d'être aimée et de se sentir en sécurité, tout comme moi. Cette personne est également en mesure de contribuer à la communauté de manière positive. D'ailleurs, elle souhaite souvent travailler et devient une employée enthousiaste une fois qu'elle a appris sa routine. Bref, on gagne à la voir au-delà de son handicap. Voilà, c'était un propos de d'Annick Larose dans le journal du Bel Âge de mars 2018.
Très bel article, Francine. Merci pour cette lecture ce matin. On vous revient tout de suite dans quelques instants avec Roger et son sujet. Alors, Roger, à votre tour ce matin, qui nous parle de la course aux étudiants étrangers.
Oui, c'est Julie Marlowe, Barlow.
Qui
s'est intéressée à la question. Mm-hmm. C'est un article qui paraît dans l'actualité édition du mois de mars.
D'accord.
Sur les campus du Québec, plus d'un étudiant sur 10 vient de Lyon, Pékin, New York, Alger, Dakar ou ailleurs. Dans l'ensemble des universités du Canada, le nombre d'étudiants internationaux a presque quadruplé en 15 ans. Reflet d'une société ouverte sur le monde? Pas seulement. Pour les établissements, il s'agit d'un effectif payant. Au Québec, chaque étudiant originaire d'un pays étranger acquitte des droits de scolarité 7 fois plus élevés que ceux imposés à un Québécois. Dans les 6 pays industrialisés qui en attirent le plus, l'apport économique de cette population se chiffrait à 11,4 milliards de dollars en 2014. Pas étonnant que partout sur la planète, la concurrence est très vive pour attirer les cerveaux et le talent, dit Mia Homsey, directrice de l'Institut du Québec, un établissement de recherche commun de HEC et du Conference Board du Canada. Dans cette course aux étudiants, le Québec perd toutefois du terrain alors qu'il était la destination de choix de 40% des étudiants internationaux au Canada en 2000. Il n'en accueille plus que 25%. Les revenus pour les universités ne sont pas le seul enjeu. La plupart des personnes contactées pour ce reportage s'entendent pour dire que la présence d'étudiants d'origine diverse renforce les relations entre les universités des pays, favorise l'attraction de professeurs étrangers et plus encore. Ainsi, à Québec, le ministère de l'Immigration y voit une solution aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée à venir. Ces étudiants ont souvent un réseau établi. Leur intégration est bien amorcée. Leur connaissance du français est bonne, explique Jonathan Lavallée, responsable des communications et des relations avec les médias. Mais encore faut-il convaincre les étudiants de s'installer au Québec et les diplômés d'y rester. L'Institut du Québec suggère notamment d'offrir aux universités francophones des mesures d'incitation financière en matière de recrutement et d'intégration. Pour séduire, elles doivent investir davantage que les établissements anglophones, notamment en offrant des services d'aide et de francisation qui coûtent cher. Le jeu de l'offre et de la demande avantage par ailleurs les universités anglophones. Les étrangers les plus payants, entre guillemets, sont en effet ceux inscrits dans les 6 programmes déréglementés depuis 2008, administration, droit, sciences pures, mathématiques, génie et informatique. Dans ces programmes très populaires, les universités fixent les droits de scolarité qu'elles veulent. Pour son baccalauréat en commerce, par exemple, l'Université McGill demande 42 000 $ par an aux étrangers. Pour son MBA, c'est 44 500 $ par an et 39 750 $ pour les autres Canadiens, Québécois compris. Et elle doit refuser des inscriptions. Ça ressemble aux États-Unis un peu. Pour les universités anglophones, c'est très lucratif, dit Mia Homsey. Surtout depuis que les étudiants asiatiques ont décidé massivement il y a 15 ans d'aller étudier à l'étranger, dit-elle. Ceux-ci sont prêts à payer très cher. Dans les universités canadiennes, près de 60% des étudiants venant de l'international sont originaires de Chine. Dans l'ensemble des universités québécoises, la plus grande cohorte vient d'Europe, 40% de tous les étudiants, surtout de France. Or, les Français paient les mêmes droits de scolarité que les inscrits en provenance d'autres provinces, soit 7 403 $ par année. C'est 2 fois moins que ce qu'il en coûte aux autres étrangers. La demande dans le marché francophone n'est pas suffisante pour exiger des droits aussi élevés qu'à McGill, où 20% des inscrits viennent de Chine, 7% de 146 autres pays. À l'Université de Montréal, où 10% des étudiants sur les 65 000 inscrits viennent de l'extérieur du Canada, seulement 4% sont d'origine chinoise. Notre clientèle, c'est la francophonie, c'est l'Afrique du Nord, ce n'est pas le même réservoir que les universités anglophones, dit Guy Breton, recteur de l'université. C'est presque un service qu'on rend au pays du Sud. Le recteur en convient, c'est une occasion d'attirer les meilleurs talents venus d'ailleurs et cela donne l'occasion à nos étudiants locaux de côtoyer des gens de différentes cultures. Il estime cependant qu'il n'est pas sain qu'un établissement dépende trop de ses étudiants, car il s'expose aux aléas de la politique et de l'économie internationale. Si certains pays comme la Chine décidaient du jour au lendemain de ne plus envoyer d'étudiants, certaines universités seraient au bord de la faillite, souligne Guy Breton. À Sherbrooke, le vice-recteur Jean Goulet estime, lui aussi, que l'ouverture ne doit pas devenir un outil de financement. Cela risque, dit-il, de dénaturer l'université. Ils ne sont pas les seuls à s'interroger sur la pertinence d'ouvrir toutes grandes les portes des universités aux étudiants internationaux. En Colombie-Britannique, un groupe de professeurs s'est mobilisé en 2017 pour ralentir le rythme de croissance, près de 700 % depuis 2000, du nombre d'inscrits venant d'autres pays. On enseigne maintenant à des classes comptant jusqu'à 50 % d'étudiants étrangers, dit Jesse Smith, professeur d'études latino-américaines au collège Langara à Vancouver. En mars 2017, l'Université de Californie a établi un plafond de 20 % d'étudiants étrangers et non résidents. Les parents californiens craignent que l'afflux d'étudiants étrangers ne réduise les chances d'admission de leurs enfants, explique Ricardo Vasquez, directeur des relations avec les médias. Le moment était venu d'établir les règles du jeu. Revenons au Québec. Pour accroître les chances de retenir les universitaires, le ministère de l'Immigration a mis en place en 2010 son programme de l'expérience québécoise, PEQ, destiné aux étrangers ayant obtenu leur diplôme au Québec. Ce programme permet de déposer une demande de résidence permanente seulement 20 jours après la diplomation, plutôt que 32 mois. Depuis, le nombre de demandes traitées augmente en moyenne de 28 % par année. Angu Ban, étudiante chinoise de 24 ans, est bien décidée à rester au Québec. Pendant ses études de baccalauréat en littérature française à Shanghai, elle est venue faire un échange étudiant à Québec et a adoré la société québécoise. Elle s'est inscrite en sciences de l'information à l'Université de Montréal et a terminé sa maîtrise en janvier 2016. Deux mois plus tard, elle obtenait un contrat à la bibliothèque de Brossard. « J'aime la culture, qui est très ouverte, accueillante et dynamique. Je me suis même habituée au froid, dit-elle.
Ah. »
Alors, la course aux étudiants étrangers, c'est partout au Canada. Et on voit que ça joue dur, parfois.
Ben, il faut croire qu'on a une qualité d'enseignement, sûrement. Et les gens aiment beaucoup notre pays et notre Québec, surtout.
Oui, certainement. C'est pour ça que j'ai terminé avec la madame qui vient de Chine.
Une bonne idée.
Très bien intégrée ici.
Oui, voilà. Très bonne idée. Bon, ça va, la pause musicale. Et tout de suite après, je vous reviens avec un petit article sur la santé de vos yeux. Tiens.
Un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un joli bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est les cris d'un hibou, encore ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, un point, une bosse, une tache, un goût, un geste, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond. s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fonce, ce sont les eaux de mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tu te fonds.
Mois de mars oblige avec cette belle température qui est à nos portes. On écoutait donc Les Eaux de Mars. C'était repris ici par la chanteuse américaine Stacey Kent, pièce popularisée en français par Georges Moustaki, mais composition de Antonio Carlos Jobim en 1973, Las Aguas de la Marco.
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le printemps s'en vient et c'est très encourageant. Eh bien, moi, j'ai retrouvé un article dans le magazine Costco. C'est sur la santé des yeux et c'est un papier de Jeanne Langille. Elle écrit ce qui suit. Viviane Young est optométrice et propriétaire de West Coast Doctor of Optometry, une société qui exploite 5 centres d'optique dans les entrepôts Costco de la Colombie-Britannique. Elle dit qu'en examinant les yeux d'un collègue qui se plaignait d'une vision embrouillée, elle a décelé une hémorragie oculaire. Elle a mesuré la pression artérielle du patient, qui était très élevée, et l'a immédiatement aiguillée vers l'hôpital. Cette personne ne savait même pas qu'elle souffrait d'hypertension. En plus de contribuer au maintien de l'acuité visuelle, un examen de la vue est essentiel au dépistage précoce des maladies qui touchent les yeux, comme le diabète, la sclérose en plaques ou une tumeur cérébrale, ainsi qu'à leur traitement et à la réduction des complications qui y sont associées. Certaines conditions sont aujourd'hui plus faciles à traiter grâce aux découvertes médicales dans ce domaine. Les plus grandes avancées touchent les soins pour la sécheresse oculaire, l'extraction chirurgicale des cataractes et la promotion du rôle de la nutrition pour la bonne santé de l'œil, affirme Mme Young. Elle dit que la plupart des entrepôts Costco offrent des examens de la vue verre et lentille cornéenne sur ordonnance, gouttes oculaires et compléments. Et elle dit aussi que les larmes lubrifient les yeux, en évacuent les corps étrangers et réduisent les risques d'infection. La démangeaison ou la sensation de brûlure ou d'irritation qui caractérise la sécheresse oculaire apparaissent lorsque les larmes n'ont pas la bonne composition chimique ou sont produites en quantité insuffisante. Un optométriste peut déterminer la cause de la sécheresse oculaire à l'aide d'un biomicroscope et de colorants spéciaux qui lui servent à évaluer la quantité, la qualité et les facultés de réparation des larmes. Il est ainsi en mesure de proposer un traitement, administration de gouttes ophtalmologiques entre autres, prise d'anti-inflammatoires, il y a l'application d'un gel aussi ou onguent lubrifiant. Si la fatigue oculaire est attribuable à une attention trop soutenue à l'écran pour compenser une prescription inadéquate, il faut changer à ce moment-là de lunettes et de verres, dit Mme Young. Le cataracte se forme lorsque le cristallin de l'œil, qui est normalement transparent, s'opacifie. Cette condition indolore, qui brouille la vue et entrave la vision nocturne, se manifeste surtout passé le cap des 60 ans. Elle se développe en quelques mois seulement ou sur de nombreuses années, selon les sujets. Non traitée, la cataracte nuit aux activités quotidiennes et à la mobilité. Elle doublerait même le risque d'accident de la route. Si la présence de cataracte est détectée au cours d'un examen de la vue, l'optométrice aiguille le patient vers un ophtalmologiste. Ce spécialiste pourra en pratiquer l'ablation et implanter chirurgicalement un cristallin synthétique. Elle dit que beaucoup de baby-boomers atteints de cataractes précoces refusent de porter des lunettes de lecture. Les nouveaux cristallins artificiels offrent une correction de la vue supérieure et les dernières techniques chirurgicales sont bien moins invasives qu'avant. Elle dit aussi que pour avoir de bons yeux, l'Association canadienne des optométristes recommande la consommation d'aliments riches en lutétine et en zéacentine, deux antioxydants qui sont présents dans les épinards, entre autres les choux frisés, et plusieurs légumes aussi à feuilles vert foncé. Aux États-Unis, on a donné à des personnes dont l'alimentation était très faible en lutéine et en zéacentine des compléments à raison de 10 mg et de 2 mg par jour, respectivement. Cette vaste étude a révélé que ces personnes couraient 26 % moins de risques que les autres participants d'être atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie causant la perte progressive de la vision centrale. Elle avait aussi 32 % moins recours à la chirurgie des cataractes. Pour atténuer la sécheresse oculaire, Mme Young recommande de manger des aliments riches en acides gras oméga-3, comme les graines de lin moulues ou les compléments d'huile de poisson. Consommer moins d'aliments à forte teneur en sucre et en glucides raffinés réduit aussi le risque de la cataracte. Et je vous donne quelques trucs. On dit qu'une évaluation complète de la santé oculaire réalisée par un optométriste comporte ce qui suit. Une revue de l'état de santé global et des antécédents de problèmes oculaires. Mesure de l'acuité visuelle avec et sans lentille correctrice. Évaluation des réactions pupillaires de la vision périphérique et du fonctionnement des muscles oculaires. Il mesure aussi la pression intraoculaire pour dépister le glaucome avec le fameux petit jet d'air. L'observation, il fait aussi l'observation de la rétine et du nerf optique. Un test de dépistage aussi rétinien à l'aide d'une caméra pour détecter les maladies, entre autres la dégénérescence maculaire, le glaucome et autres problèmes de santé, entre autres la déchirure rétinienne, le diabète et l'hypertension. Alors voilà, c'est un article que j'ai retrouvé dans le magazine Costco du mois de mars et avril 2018, naturellement. Alors on s'en va à la deuxième partie de l'émission où on retrouvera nos collaborateurs, naturellement, et moi-même j'aurai un article à vous lire, naturellement. Alors à tantôt.
Je veux pas descendre avant d'être arrivé au bar. Donne-moi le temps de prendre mon temps. Donne-moi le temps de m'habituer. Ça peut bien faire. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire quand moi j'aurai le cœur à l'envers? Qui c'est qui viendra mourir à ma place? On est toujours seul, on finit toujours avec sa gueule. Ça peut bien faire si je veux pas vivre la vie de mon père. L'enfer, 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 l'enfer,
retour en 1974 de son album Les Vierges du Québec. Jean-Pierre Ferland, qu'est-ce que ça peut bien faire?
Ah, ça peut faire quelque chose quand on mange bien, hein, Franceline?
Oui, c'est ça, oui. Enfin, le lien avec Mars, le mois de la nutrition, et un petit article que j'ai trouvé dans le journal du Bel Âge de mars, donc 2018, qui est une, je vais dire, une, écrit par Linda Presley et qui a parlé avec Nathalie Régimbal, qui est une nutritionniste. Alors, comment devenir champion de l'alimentation? Et elles disent, c'est simple comme bonjour. Cette année, le mois de la nutrition a pour thème le pouvoir des aliments. L'occasion de faire le plein d'astuces gagnantes a commencé donc par ceux que donne la nutritionniste Nathalie Régimbal. Alors, le premier élément, reconnaître et écouter nos signaux de faim et de satiété. Ça semble un jeu d'enfant, pourtant on s'y trompe souvent, dit la nutritionniste. Pour être certain qu'on a faim et non soif, on confond souvent les deux, ou qu'il s'agit de gourmandise, on s'assure d'avoir le ventre qui gargouille. Si on constate en plus une augmentation de la salive, une baisse d'énergie et de concentration, on est alors certain qu'il est temps de se remplir la panse. Un autre bon indice, l'appel de la nourriture survient en général quelques heures après avoir mangé ou après une période d'activité physique assez intense. Ensuite, pour savoir si on est rassasié, il suffit de remarquer que ces signaux ont disparu. On se sent bien, sans pour autant se sentir plein, précise Madame Régimbal. Pour nous aider à comprendre, elle nous suggère d'imaginer que notre faim est un cercle vide. La satiété survient lorsqu'il est presque complet, mais si on comble le tout petit espace restant, c'est qu'on atteint alors le trop-plein. Ensuite, revoir nos habitudes alimentaires. Une bonne idée, surtout quand notre corps subit des changements comme ceux causés par la ménopause, par exemple. On se demande, est-ce que je mange convenablement? Devrais-je modifier certaines habitudes ou en retrouver des anciennes qui me conviendraient, qui me convenaient? Dit Madame Régimbal, qui ajoute qu'on a intérêt à nous informer, par exemple, auprès d'un nutritionniste, avant de songer à modifier notre alimentation ou entreprendre un régime. Autre élément, équilibrer notre menu. Les légumes ou les fruits devraient idéalement occuper la moitié de notre assiette, qui devrait aussi comprendre un quart de grain entier et un quart de protéines animales ou végétales. Autre élément, on ne lésine pas sur les protéines, et cela même si on surveille notre tour de taille. Sous forme de viande, de poisson, d'œufs, de légumineuses ou de tofu, elles sont essentielles pour renforcer les muscles qui, on le sait, contribuent à faire brûler davantage de calories. Et on ajoute de la vitamine D, parce qu'elle aide à l'absorption du calcium et du phosphore, ce qui en fait un bon allié pour les os ainsi que pour le système immunitaire. Selon certaines études, elle contribue aussi à réduire des risques de maladies comme la sclérose en plaques. On peut par exemple s'exposer au soleil, puisqu'il en constitue une source principale, ou consommer des poissons gras tels que le saumon, le maquereau et la truite au moins 2 fois par semaine. On peut prendre aussi du lait de vache et des boissons de soya ou d'amandes, et certains yogourts enrichis de vitamine D ou encore de suppléments si on n'absorbe pas suffisamment des aliments précédents. Et on ajoute aussi des oméga-3 sous forme de poissons gras dont on a parlé avant, de noix et de graines de lin ou de chia par exemple. Alors il y a 2 initiatives nutritives des diététistes du Canada. La première, pour voir toutes les activités du mois de la nutrition et pour télécharger l'appli de recettes Cuisine Idée, visitez donc le site lediététicien.ca, D-I-E-T-I-T-I-A-N-S.ca. Et aussi un autre site qui est profilan.ca, un outil pour nous aider à évaluer notre profil de mangeur et à nous fixer des objectifs à planifier et à planifier nos repas. Donc voilà, quelques éléments pour se rappeler de la bonne, que la bonne nutrition aide à la bonne santé.
Et si vous aviez pris en note les adresses Internet, en fait, ce serait important d'y aller. Parce qu'un nutritionniste, c'est très, très bon, en fait, aller chercher des trucs.
Oui, absolument.
Et effectivement, les protéines, c'est très bon aussi. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, Monsieur Roger, on y va avec vous.
Oui, alors c'est Anne-Frédéric Hébert-Dolbecq qui, dans la sélection du Reader's Digest, nous parle du prêtre des oubliés de Montréal. C'est la sélection du Reader's Digest du mois de mars. Dans le hall d'entrée de l'archevêché de Montréal, l'abbé Claude Paradis donne ses dernières instructions à ses troupes. Nous 5, on part vers l'est, les autres, vous allez à l'ouest. Aujourd'hui, Pierre va nous suivre en voiture avec des vêtements. Si vous voyez quelqu'un sans manteau ou sans bottes, offrez-en-lui. Chaque soir, et ce depuis 20 ans, le prêtre arpente les rues du centre-ville de Montréal en distribuant nourriture et café à ses amis de la rue. Lorsqu'il s'approche d'un groupe réfugié sous le toit d'une église située à 2 pas du métro Bonaventure, les visages s'illuminent. Salut Claude. Le visage du Christ et le chapelet qu'il porte tatoué sur le bras gauche résument bien la mission de dealer d'espoir que s'est donné l'homme d'église. Mon but, c'est surtout d'apporter du réconfort aux gens. Je les écoute, je les conseille. Les itinérants sont enfermés dans la solitude. Tout le monde les ignore. Je veux leur donner une raison de vivre. Claude Paradis est loin d'être étranger à la dureté de la rue. Il est arrivé à Montréal il y a 28 ans, incapable de trouver du travail. Il a dormi sous les ponts pendant des années. Désespéré et isolé, l'homme a peu à peu sombré dans la toxicomanie. Alors qu'il songeait à mettre fin à ses jours, il a trouvé sa voie au sein de l'Église. Depuis, le prêtre accompagne les itinérants dès leur premier pas dans la rue et il les suit ensuite jusqu'à leur dernier souffle. Au cours des 4 dernières années, Claude Paradis a mis en terre les cendres de dizaines de sans-abri dont personne n'avait réclamé le corps. L'automne dernier, il a ainsi organisé l'enterrement de 101 personnes au repos Saint-François d'Assise à Montréal. Ces gens ont été seuls toute leur vie. J'essaie de faire en sorte qu'ils le soient un peu moins dans la mort. Ils ont le droit d'être enterrés dans la dignité comme les autres humains et qu'on honore leur mémoire. L'abbé Paradis est très souvent confronté à des sans-abri qui craignent de mourir seuls. Dès ses tout débuts dans le métier, il a été appelé au chevet d'Olivier, un jeune homme de 18 ans qu'il a connu dans la rue et qui se trouvait en soins palliatifs après avoir perdu sa bataille contre le cancer. Olivier avait fait au moins 5 familles d'accueil au cours de sa vie. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, il m'a dit « Personne ne m'a regardé vivre. » Toi, voudrais-tu me regarder mourir? Je m'en souviendrai toute ma vie. Aujourd'hui, son initiative permet de combattre un peu cette solitude. Chaque année, des centaines de personnes de tous milieux et de toute origine affluent au cimetière afin d'assister à la cérémonie. Ça donne lieu à de beaux moments. En 2017, M. Papillon, un entrepreneur de Brossard, nous a fourni 101 papillons monarques en hibernation, chacun dans sa petite boîte en carton. Lorsqu'on souffle sur eux, les insectes se réveillent et restent posés sur nous pendant un moment avant de s'envoler, un peu comme l'âme des défunts. Plusieurs de ceux qui dorment sous les ponts voient en Claude Paradis une figure presque paternelle. Il y a beaucoup de solitude quand tu es dans la rue, raconte Jean-Simon Tremblay, itinérant depuis 6 ans. Grâce à Claude, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va revenir pour moi. Je l'ai déjà vu de mes propres yeux donner son manteau d'hiver. Le prêtre à qui aucune paroisse n'est assignée espère continuer à répandre l'espoir dans la rue aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Chaque soir, quand je rentre chez moi, je suis rempli de gratitude. Je ne changerai ma vie pour rien au monde. Alors, depuis qu'il a trouvé son salut dans l'Église, Claude Paradis prêche l'espoir et tend la main aux sans-abri et aux damnés de la vie. C'est un texte qu'on peut lire dans les sélections du Reader's Digest du mois de mars.
Très intéressant,
inspirant,
hein?
Oui.
Ouais, inspirant, et on a encore des gens qui s'occupent de ces pauvres gens quand même.
Oui.
Très, très intéressant. Je vous reviens dans quelques instants avec un article sur la consommation des plats industriels. Eh bien, tout à fait en lien avec l'article que Francine nous a lu un peu plus tôt dans la deuxième partie de la demi-heure. On dit que la consommation de plats industriels augmente le risque de cancer. Et c'est un papier que j'ai retrouvé sur le blog de la presse daté du 15 février dernier, mais que je trouvais très intéressant. Et c'est écrit par Hugues Honoré. Il dit « Ceux qui abusent des plats industriels augmentent le risque d'être atteints de cancer. Selon une étude auprès de 105 000 personnes en France, qui formule des hypothèses sur l'origine du danger. Le lien de cause à effet reste à démontrer, a précisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a financé l'étude avec d'autres institutions publiques françaises. Mais la corrélation est établie. Une brioche industrielle, une pizza surgelée, une salade composée. On dit que de 2009 à 2017, les participants à l'étude NutriNet Santé ont périodiquement rempli des questionnaires en ligne sur ce qu'ils mangeaient. Les chercheurs qui publient leur étude dans la revue BMJ, le British Medical Journal, se sont intéressés à ce qu'ils appellent les aliments ultra-transformés. D'après eux, ceux-ci contiennent souvent des quantités plus élevées en lipides saturés, des sucres et sels ajoutés, ainsi qu'une plus faible densité en fibres et vitamines. Ils citent les pains, les sucreries, les desserts, céréales, la boisson sucrée, les viandes transformées, entre autres les boulettes, les croquettes, le jambon avec additifs, les pâtes et soupes instantanées, et tous les plats surgelés. À quel point ces produits qui peuplent nos supermarchés et garde-manger sont-ils dangereux? On dit qu'une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire s'est révélée être associée à une augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer, et un cancer du sein en particulier. Pour le cancer, ce risque est accru de 6 à 18% et pour le cancer du sein spécifiquement de 2 à 22%. Les graisses et sauces ultra-transformées et les produits et boissons sucrées étaient en cause globalement. Et pour le cancer du sein, les chercheurs accusaient les produits sucrés ultra-transformés. L'avantage de cette étude, qui a des limites, dit-on, et qui ne prétend pas à l'exhaustivité, c'est de donner des chiffres, a commenté le médecin nutritionniste Laurent Chevalier. Lui, qui a publié en fin février le livre « L'indulgence dans l'assiette », refuse de jeter l'anathème sur toute l'alimentation industrielle. Son livre conseille les produits les moins pires, y compris parmi les frites et les mayonnaises. Aujourd'hui, on ne doit pas être dans le déni et faire croire que tout le monde va faire mijoter son pot-au-feu. On passe moins de temps en cuisine. Il faut des conseils qui correspondent au mode de vie des parents qui travaillent ou des adolescents qui se posent des questions, explique-t-il. Reste une énigme, ce qui provoque ces cancers. Eh bien, les scientifiques ont fait état de 2228 cas, dont 108 mortels et 739 du sein sur la période et la population étudiée. Les hypothèses des chercheurs les portent vers la qualité nutritionnelle généralement plus faible de ces produits, trop gras ou trop caloriques et ou trop salés, et la vaste gamme d'additifs qu'ils contiennent aussi. Par ailleurs, la transformation des aliments et en particulier leur cuisson produisent des contaminants nouvellement formés, et leur emballage plastique peut contenir du bisphénol A, un perturbateur endocrinien. Dans un éditorial, le BMJ a souligné que l'étude ne proposait qu'une première observation, qui mérite une exploration attentive et plus poussée. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu, selon la revue, car, par exemple, le tabagisme et une activité physique faible étaient bien plus répandus chez les participants qui consommaient une plus grande proportion d'aliments ultra-transformés. Ce terme même reste peu utilisé par les scientifiques de la nutrition, a révélé un professeur en diététique du King's College de Londres, Tom Sanders. Et cité par Science Média Centre, il estime que cette classification semble arbitraire et fondée sur le postulat que les aliments traités industriellement ont une composition nutritionnelle et chimique différente de ceux produits à la maison et par des artisans. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors voilà, c'est un papier que j'ai retrouvé sur le blog de la presse datant du 15 février dernier. Et je vous rappelle, celui qui l'a écrit, il s'appelle Hugues Honoré.
Je n'ai qu'une minute, une petite minute, je n'ai rien qu'une minute, une petite minute, une toute petite minute pour vous chanter une valse d'une minute qui ne dure pas plus d'une minute. Oui, je peux la chanter, l'articuler sans faire une faute et sans oublier une seule note. Ce n'est pas si facile que ça, mais il faut que je vous explique. J'ai parié l'autre soir devant tous mes amis que rien n'était plus facile et quand j'ai réussi, ils m'ont offert une bouteille de whisky et depuis je bois pour rien dans toutes les surprises parties. Je leur fais la surprise, ils font le parti. Beaucoup chopin, mais j'aime encore mieux le whisky. Si Chopin avait su ça, je suis sûre qu'il ne l'aurait jamais écrit. Je trouve ça vraiment curieux, et quelquefois c'est vraiment très ennuyeux quand je fais bouillir mes œufs. Trois fois de suite, je dois la chanter, mon Dieu. Je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes. Je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes. Je n'ai plus que la moitié d'une minute pour vous chanter cette valse d'une minute qui ne dure pas plus qu'une minute. Quelquefois je me demande si je suis une femme ou si je suis une cocotte minute. Justement mon mari me disait l'autre jour, j'en ai vraiment assez, tu t'arranges toujours pour faire ce que tu fais à la dernière minute. Mais moi je lui ai dit alors la part dans minute. C'est de trouver quelqu'un qui, comme moi, peut tout faire dans une minute.
Au risque de briser la magie de cette chanson, je vous apprendrai que la valse minute, cette pièce de Monique Lérac, ne dure pas une minute, mais bien une minute trente. C'était donc une demande spéciale de mes compatriotes en studio.
Oui, c'est ça, parce que moi j'ai encore besoin de quelques minutes, alors ça va aller.
Il faudrait quand même relever le défi à savoir combien de mots elle dit dans cette chanson.
Oui, ouais, c'est vrai, c'est extraordinaire.
Alors, Franceline,
oui, moi je vais vous lire un article qui traite plutôt de la solitude et l'isolement social. Ça revient un peu à ce que, enfin, ça rejoint le thème de Roger tout à l'heure. Et mais c'est le titre, c'est La tristesse du pourriel, et c'est écrit par Yannick Marcil que j'ai retrouvé donc dans le journal L'Itinéraire du 15 février 2018. Et il dit ceci, il écrit ceci: nous recevons tous de temps à autre ces détestables pourriels qui promettent sexe ou fortune. Lorsque je parcours ma boîte de ces indésirables rédigés dans un français approximatif, je suis toujours fasciné. S'il y en a une telle quantité envoyée tous les jours, c'est que ça doit bien fonctionner de temps à autre. Des gens doivent cliquer sur les liens, convaincus qu'ils hériteront d'une fortune colossale d'un Africain récemment décédé ou d'une dame au physique de supermodèle qui s'intéresse véritablement à eux. Les chiffres sont astronomiques. Il y a quelques années, une étude de Microsoft estimait qu'il y avait 200 milliards de pourriels envoyés par jour dans le monde, constituant 90% de la totalité des courriels. Au cours d'une année, 11% des personnes interrogées dans un sondage auraient cliqué au moins une fois sur les liens qu'ils contenaient. Une fois dans l'année, sur les centaines ou les milliers de pourriels qu'on reçoit, cela peut paraître minuscule, mais sur les milliards de pourriels envoyés, c'est énorme. On pointe souvent la naïveté ou de la méconnaissance des gens qui le font, et à juste titre, mais on s'interroge peu sur leur motivation. Pourquoi est-on à ce point naïf pour croire qu'un prince nigérian ferait de nous son héritier, ou qu'une magnifique femme en Biélorussie souhaiterait s'offrir à nous ? Je n'ai évidemment pas la réponse, mais une hypothèse pourrait être qu'un grand nombre de personnes qui le font sont dans un niveau plus ou moins grand de détresse. Détresse financière, affective ou sexuelle. Lorsqu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois, il peut être tentant, aussi désespéré que cela peut sembler vu de l'extérieur, de se laisser accrocher par une offre alléchante. Au-delà de la pauvreté matérielle ou affective, j'ai l'impression que l'isolement social constitue un vecteur important, expliquant ses comportements face au pourriel. Nous vivons de plus en plus séparés les uns des autres, et de plus en plus seuls. Les données du dernier recensement sont éloquentes à cet égard. Au Canada, près du cinquième des ménages, c'est-à-dire 28,2%, ne comptent qu'une personne. Cela signifie que 13,9% des Canadiens de 15 ans et plus vivent seuls. Il s'agit là d'un énorme changement en peu de temps, puisqu'il y a une cinquantaine d'années, c'était moins de 2% des Canadiens qui vivaient seuls, l'exception donc. Le Québec est la province où l'on retrouve le plus de ménages d'une seule personne, le tiers d'entre eux. La solitude et l'isolement social sont des phénomènes propres aux sociétés riches et industrialisées, au point que le gouvernement du Royaume-Uni a créé récemment un ministère de la solitude qui tentera de trouver des solutions pour venir en aide aux 9 millions de personnes qui affirment se sentir seules et isolées dans le pays. Bien pire, 200 000 personnes âgées n'auraient parlé à personne pendant au moins un mois. La solitude et l'isolement social ne sont donc pas des phénomènes marginaux dans les sociétés. Il génère également beaucoup de souffrances psychologiques, mais aussi des problèmes de santé physique. Lorsqu'on se débat dans les affres de la solitude, nous risquons de baisser la garde et d'être tentés par des promesses irrationnelles qui pourraient nous en sortir. C'est à ces personnes seules que je pense, lorsque je vois les promesses irréalistes et farfelues contenues dans les pourriels que je reçois. Au fond, j'éprouve beaucoup de tendresse à les lire, beaucoup de tristesse aussi. Car j'imagine ces milliers de femmes et d'hommes s'accrochant à cet improbable espoir d'apaisement de leur souffrance. Voilà, c'était donc Yannick Marcil qui écrit ce texte dans le journal L'Itinéraire du 15 février 2018.
Merci beaucoup, Franceline. Alors, Roger, on avait une brève.
Oui, alors, aux États-Unis, ils ont un fichu problème. C'est pour l'exécution, c'est pour la peine de mort. On propose d'exécuter au fentanyl. Après avoir causé la mort de plus de 20 000 Américains par surdose l'an dernier, le fentanyl pourrait être utilisé pour exécuter les condamnés à mort aux États-Unis. C'est une solution de rechange parce que devant la pénurie de substances servant à l'injection létale, les grandes sociétés pharmaceutiques refusent de les fournir, le Nevada et le Nebraska font pression auprès des autorités législatives pour avoir recours à cet opioïde. D'autres États où la peine capitale est en vigueur se tournent déjà vers des combinaisons de médicaments moins efficaces pour exécuter les condamnés. Certains ont même ramené le peloton d'exécution et la chaise électrique. Des opposants en alerte, le fentanyl présente l'avantage d'être à la fois puissant et accessible, mais médecins et opposants à la peine de mort préviennent que l'usage non testé de cet opioïde, jusqu'à 100 fois plus fort que la morphine, peut mener à des exécutions bâclées. Problème.
Épouvantable. Franceline.
Oui, moi, alors, une brève qui a un rapport avec le mois de la nutrition, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Des pruneaux pour les os. Savez-vous qu'après la ménopause, certaines femmes perdent environ 1% de leur masse osseuse par année? Ce phénomène peut augmenter considérablement les risques de fractures et d'ostéoporose. Une alimentation riche en calcium et en vitamine D, ainsi que la pratique régulière d'activités physiques, ralentissent la perte osseuse. Tout comme la consommation de pruneaux, selon une nouvelle étude. Manger 50 grammes de pruneaux par jour, c'est à peu près l'équivalent de 5 à 6 pruneaux, offrirait une protection significative aux os. Les chercheurs ne sont pas encore parvenus à identifier les composantes nutritionnelles jouant ce rôle protecteur, mais les pruneaux apportent déjà de la vitamine K, du potassium, du manganèse, des fibres et des antioxydants, tout en contribuant à prévenir la constipation. Autant les intégrer sans attendre à notre menu au petit déjeuner, par exemple, coupés en morceaux dans un gruau ou dans nos mijotés et nos plats de couscous.
Merci
voilà,
beaucoup.
Une belle idée.
Alors, Roger.
Une dernière, 5494, c'est le nombre de passagers que peut accueillir le Symphony of the Seas, le plus gros paquebot jamais construit, dont le voyage inaugural est prévu pour avril prochain. Si on y ajoute ces quelques 2400 membres d'équipage, cela équivaut à entasser sur le même navire la population entière de Bromont.
Ah,
va faire un beau voyage.
D'accord. Ben merci à vous deux. Merci à Jean-François Laliberté qui fait de cette émission un vrai succès. C'est pas Jean-François, c'est Jean-Sébastien, tout à fait. En tout cas, je vous remercie. Mon nom est Claude Blas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous rappelle de rester en onde parce qu'il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui s'en vient. Et cette fois-ci, c'est avec François Brodeur. On vous souhaite une excellente semaine.